titre du sermon aujourd'hui, le cœur tourné vers la fête. Le cœur tourné vers la fête. On est tout proche de la fête des tabernacles. Alors, c'est déjà bon de s'orienter dans ce sens-là, de faire nos lectures en conséquence, d'en parler à Dieu et de se préparer pour cet événement majeur. Vous savez, le sabbat de chaque semaine de Dieu, son sabbat hebdomadaire, c'est très important. Et il y a aussi ces 7 sabbats annuels, ce qu'on appelle des grands sabbats, qui sont les fêtes de l'Éternel et qui représentent, comme on en parle régulièrement, les 7 étapes du plan de Dieu. Non seulement ça décrit son plan, mais ça décrit son caractère. Dieu ne change jamais. Le plan que Dieu établit avant de créer les êtres humains n'a jamais changé et il ne changera jamais. Ces fêtes ont toujours existé. Elles existent actuellement et elles existeront dans le monde de demain. Et le sabbat de chaque semaine, ça nous aide à nous souvenir. C'est un rappel, un aide-mémoire qui est bien important. Parce que nous, les êtres humains, on oublie. Pas juste parce qu'on avance en âge. On oublie par l'habitude aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous sollicitent autour qu'on oublie les choses importantes parfois. Il faut jamais oublier que c'est lui notre créateur. Qu'on dépend de lui pour toute chose. Vous pourrez aller voir l'Exode 20, verset 11 et verset 8. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est le verset 11. Le verset 8, il dit, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Donc là, on a une responsabilité quand on connaît Dieu. Chaque semaine, comme on fait maintenant aujourd'hui. Et comme font les gens que Dieu appelle à l'Église et qui découvrent le sabbat. Donc, chaque semaine, le sabbat nous aide à nous souvenir de notre grand Créateur. Et ça nous aide à rester en contact avec lui. Et ça nous rappelle aussi que c'est lui qui nous délivre de tous les dangers. Vous irez voir Deutéronome 5, verset 12, où il rappelle le commandement. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Il revient là-dessus. Observe le jour du repos pour ne pas oublier ton Créateur et pour ne pas oublier que ton Créateur est celui qui t'a délivré du monde où tu étais, des ténèbres où tu étais, des ténèbres où j'étais, de la misère où j'étais, quand je n'avais pas la compréhension du vrai Dieu. Au verset 15 de Deutéronome 5, ça complète ce que je vous dis, il est écrit, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » À ce moment-là, il s'adressait aux Israélites qui avaient délivré. Mais ça s'applique à nous, qui étions esclaves dans l'Égypte moderne, à faire les choses que le monde se plaît à faire maintenant, et qui sont contraires aux lois de Dieu. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que ton Dieu t'en a fait sortir. Ton Dieu t'en a fait sortir. En nous appelant, Dieu nous a amenés de très loin et il nous a délivrés de plein de choses, comme il avait délivré les Israélites. Et ça, il dit, oubliez-les pas. Oubliez-les pas. Et c'est pour ça, chaque semaine, que je vous donne le sabbat, non seulement ce jour de 24 heures qui m'appartient, Dieu dit, mais un jour où vous devez être complètement en dehors de vos activités habituelles, de vos préoccupations habituelles, pour vous reposer et vous le sanctifier et être en ma présence. Mais c'est pas tout, parce que là, il y a les 7 sabbats annuels qui ont une grande importance aussi pour Dieu. La fête des tabernacles, elle dure combien de jours? 7 jours. Le chiffre 7 pour Dieu, ça signifie ce qui est complet. La fête des tabernacles dure 7 jours. Et c'est le point fort de l'année pour le tout petit troupeau de Dieu à ce moment-ci de l'histoire. C'est vrai, c'est notre point fort de l'année. On quitte nos maisons, ceux qui peuvent le faire. On quitte nos maisons, on s'en va loin, dans des hôtels, dans des motels, dans des abris temporaires. La fête des tentes, il appelait ça de même aussi. La fête des demeures temporaires. Et ça représente le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. Mais pas seulement ça. Le règne du Christ, mais de votre règne aussi, si vous êtes fidèles jusque-là. Parce que vous allez régner sous le Christ pour aider les nations. C'est pour ça que les sermons que vous allez entendre à la fête expliquent ce qui va se passer dans le monde après le retour de Christ. Avec votre participation et la mienne, on aura un rôle de premier plan à jouer sur toute la surface de la terre. C'est pour ça qu'à la fête des tabernacles, On nous explique ces choses-là, comme ça va être le cas cette année. On va nous expliquer encore comment les villes vont être rebâties, non pas selon le modèle des villes malheureuses et des cages à poules qu'on a maintenant, mais selon un modèle où les gens vont vivre en paix, vont vivre avec sérénité, vont avoir de l'espace de vie. On va nous expliquer comment les rapports humains et comment les relations familiales vont être basées sur des choses positives qui donnent des bons résultats pour que les gens soient heureux. Ça ne sera pas des relations de famille brisées ou des relations de couple brisées ou des enfants abandonnés. On va tourner de côté complètement la situation actuelle. On va voir aussi dans certains messages que les maladies seront éliminées, que la guerre va être éliminée. Et on verra aussi qu'il y aura une seule religion sur toute la face de la terre. Il n'y aura pas de faux bergers un peu partout qui répandent l'erreur, comme c'est le cas actuellement. Et il y aura un seul gouvernement sur la face de la terre qui sera établi, le gouvernement de Dieu. Et vous savez, cette vision du monde de demain, elle a enthousiasmé au plus haut point les premiers chrétiens du temps du Christ, quand il a fondé l'Église, quand il a appelé ses premiers disciples et les autres qui sont arrivés à la même époque. Ça les a enthousiasmés. Ça l'a provoqué aussi une importante croissance dans l'Église du premier siècle. Cette vision de la libération de l'humanité, de ce qui s'en venait, du retour de Christ et tout ça. Et ce qui arrive, c'est qu'à la fête des tabernacles, nous perpétuons cette chose-là. Nous revivons, pour ainsi dire, cette même vérité fondamentale, cet espoir puissant pour l'humanité. Et même si l'humanité n'est pas appelée maintenant, nous, on aime les êtres humains qui sont là, qui ne sont pas appelés. Et parce qu'on les aime, on a hâte qu'ils soient appelés au moment du retour de Christ, après son retour, et qu'ils apprennent aussi. Alors, on va perpétuer cette chose-là. On va revivre cette vérité fondamentale du royaume qui s'en vient. On sera dans un beau milieu, et loin de nos préoccupations habituelles, pour avoir le temps de penser aux choses de Dieu, fraterniser avec les membres d'Église. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui s'en vient dans le monde de demain. On sera en dehors de nos problèmes réguliers. C'est pour ça que je dis aux gens, laissez vos problèmes à la maison. Apportez pas vos préoccupations à la fête. C'est la fête de Dieu, c'est pas la fête de vos problèmes. Faites un effort, demandez à Dieu de vous aider à enlever ces choses-là, d'aller laisser chez vous, parce que là, vous allez devant Dieu pour apprendre ses voies, voir ce qui s'en vient dans le monde à venir, le rôle que vous allez avoir à jouer et comment ce sera merveilleux pour les gens à l'époque. Alors, il faut pas que vous manquiez ce rendez-vous en le gâchant en amenant vos problèmes ou en amenant vos mauvaises habitudes. Il faut que ça soit réglé, ça aussi. Il faut qu'on soit totalement pour Dieu et avec Dieu. Comment ça va se réaliser? En approfondissant les Écritures. Et c'est pour ça qu'il y a des messages spéciaux qui sont préparés sous l'inspiration de Dieu lors de la fête des tabernacles pour répondre aux besoins des tout-petits de la famille, nous, pour que ça nous fortifie. Et comment aussi? C'est en fraternisant les uns avec les autres dans un environnement familial unique. On n'est plus dans notre même milieu. On n'est plus avec les bruits autour. On n'est plus avec les préoccupations. On est avec qui? Avec les membres de l'Église, avec Dieu d'abord, puis avec les membres de l'Église. Alors, c'est là que c'est le temps d'en profiter pour aller vers les autres et changer. On est loin de nos travaux habituels. On est loin de nos tracas habituels. Et c'est pour ça que je vous dis, laissez-les à maison. Laissez-les à maison. Vous savez, quand les disciples du premier siècle ont vu qu'il y aurait un gouvernement mondial divin sur la terre, ils ont été enthousiasmés, ils ont prêché l'Évangile avec force. Et ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que vers le 4e et 5e siècle de notre ère, la grande fausse Église, celle aux sept collines, dont la capitale est la ville aux sept collines, elle a établi son propre calendrier des fêtes. Vous savez, hein? Elle a un calendrier des fêtes. Même, je me rappelle, quand j'étais petit, quand ça arrivait le temps de Noël, il y avait le temps de l'Avent, puis le temps de... Il y avait toutes sortes de situations, même par rapport, ou toutes sortes de vocabulaire comme ça, par rapport à leur calendrier, de leur fête. Ce ne sont pas les fêtes de Dieu. Les fêtes que cette grande fausse Église a étendues sur la face de la terre fait appel aux convoitises charnelles des êtres humains. Regardez simplement la fête de Noël. Je me rappelle, je l'ai célébrée en masse, la fête de Noël. Regardez les gros parties. On ne parlait pas beaucoup de Dieu, là. Ça mangeait, puis ça mangeait beaucoup. Puis ça buvait beaucoup. Et puis, ça faisait toutes sortes de folies, puis beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ça fait appel aux convoitises charnelles. on met le nom du Christ là-dessus. Alors que le Christ n'est pas né le 25 décembre et qu'il ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance. Au contraire, il nous a dit « célébrer ma mort, la Pâque ». Ok? Alors, c'est ça, je vous dis que la grande fausse Église a fait appel aux convoitises charnelles des humains en établissant un calendrier de ses propres fêtes qui sont contre Dieu. Les Pâques, la résurrection du Christ. Alors que le Christ n'a jamais dit « célébrer ma résurrection ». Il a dit, comme je vous mentionne, « célébrer le moment de ma mort ». Les rois, le gâteau des rois avec la fève, puis vous vous rappelez de ça, hein? Il mettait une fève puis un pois, je pense, dans un gâteau, puis là, il séparait le gâteau entre les convives. Puis là, il y en a un, celui qui avait la fève, c'était le roi, puis celui qui avait le pois, c'était la reine, en tout cas, quelque chose du genre. Fait que ça, c'est agréable, c'est plaisant, sauf que c'est contraire à Dieu. Il n'y a rien qui nous indique de faire ça dans la Bible. Le jour de l'an, pareil. Le jour de l'an, il n'y a rien de chrétien, au contraire. Je reviendrai là-dessus, c'est totalement païen. La Toussaint. Quand je vous parle du calendrier qui a été établi par cette fausse Église-là, le jour de tous les saints, c'est le jour de tous les morts. Et en même temps, c'est l'Halloween, le culte des morts. Voyez-vous comment tout ça est contraire totalement aux lois de Dieu. Même si la version moderne de ces fêtes-là peut avoir certains aspects qui semblent bons, bon, c'est totalement opposé au jour saint de Dieu. Et en même temps, ça a un autre effet. Pour ceux qui vivent ça, ça cache complètement le vrai plan de Dieu. Ça cache complètement le vrai plan de Dieu. Maintenant, la fête des tabernacles s'en vient. C'est formidable. Et on le sent dans l'air, et dans la joie des gens de se rencontrer et de planifier leur voyage et tout ça. Chaque fête de Dieu, c'est d'abord une fête spirituelle. Ça, c'est un point important que je veux souligner dans le message aujourd'hui. Pour qu'on arrive à la fête cette année avec ça à l'esprit. La fête que je vais célébrer, elle doit être d'abord spirituelle. C'est sûr qu'il y a des avantages à côté. On peut manger des bons repas, c'est vrai. Et c'est agréable, et Dieu veut qu'on le fasse. On peut aller visiter des beaux endroits, comme nous, dans la région ici, où on sera à Rockland, il y a plusieurs musées du côté de Gatineau et d'Ottawa, où les gens pourront aller voir des belles choses. Il y a des parcs tout proches. Bon, ça, on peut faire ça. Mais rappelez-vous une chose. La fête, c'est d'abord spirituel. On ne va pas là d'abord pour ces choses-là. On en profite, mais comme effet secondaire, si vous voulez. Il faut mettre les choses dans la bonne perspective. Et la fête ne doit pas devenir comme une sorte de vacances. Ce n'est pas une vacance. Certains prennent leur jour de vacances au travail pour aller à la fête, ça c'est vrai. Mais la fête n'est pas une vacance, comme on l'entend généralement de quelqu'un qui prend ses vacances et qui fait n'importe quoi, qui se lève tard, qui n'a plus de programme et tout ça. Non, au contraire, c'est différent. On est discipliné parce qu'il faut ne pas manquer aucun message. Être là à la soirée d'ouverture, arriver assez tôt au site de fête pour être là à chaque assemblée assez tôt pour s'installer, pour être en forme, ne pas passer une partie de la nuit debout. Malheureusement, comme on a déjà fait dans le passé, quand on est arrivé dans l'église, on ne voyait pas toutes ces choses-là, on a appris. Mais non, il faut se coucher de bonne heure pour une heure raisonnable, pour être en forme le lendemain, pour comprendre le message spirituel. La fête est d'abord la fête de Dieu, où on est là pour apprendre. Ce sont des jours merveilleux, de réjouissance, c'est vrai, de retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et là, on a commencé, mon épouse et moi, à recevoir des petits messages d'Europe, d'Afrique, de différentes places, de gens qu'on connaît, des membres de l'Église qui nous envoient leurs salutations et leurs bons vœux. C'est la famille de Dieu en action, ça fait plaisir, ça réjouit. Des jours merveilleux qui s'en viennent, vers le but. Et le but, c'est la vie éternelle, c'est de servir sous le Christ dans le monde qui vient. Il ne faut pas oublier ça. Et quand on va à la fête, c'est pour apprendre à connaître Dieu davantage, à apprécier son plan, à être fortifié. Et en même temps, ce que ça fait, si on met le spirituel en premier, et si on est de tout cœur à la fête de Dieu avec reconnaissance, c'est que ça recharge nos batteries spirituelles. Parce qu'après la fête, là, il y a 6 mois sans fête. Bien sûr, il y a le sabbat chaque semaine, heureusement, mais il n'y a plus de fête jusqu'à la Pâque. Donc, c'est l'hiver aussi. Alors, à la fête des tabernacles, on recharge nos batteries pour les mois qui s'en viennent. Pas juste en termes de temps. Avec les annonces que je vous ai données aujourd'hui de ce qui se passe sur la scène mondiale, c'est pour recharger nos batteries cette année en fonction des grands événements qui sont en train de se préparer et qui vont se dérouler dans les prochains mois qui s'en viennent. Il faudrait être prêt, il faudrait être plus fort. Alors, pour être plus fort, il faut être plus proche de Dieu. Et pour être plus proche de Dieu, il faut être à sa fête, et à sa fête de tout cœur, avec les yeux tournés vers lui pour apprendre. Vous savez, Dieu met en nous ses appelés actuellement, le petit troupeau qu'il appelle. Ceux qui sont appelés depuis longtemps, ceux qui viennent juste d'être appelés, ceux qui sont baptisés, ceux qui ne sont pas encore, mais qui sont en direction d'y aller, ceux qui ont grandi dans l'Église, les jeunes qui viennent d'arriver à l'Église, tout ce monde-là a sur ses épaules de grandes responsabilités, parce qu'on fait partie de la même équipe que Dieu appelle en ce moment. Et je vais vous dire une déclaration qui est lourde de conséquences et qui est lourde de contenu. Nous, chacun de nous, nous sommes la promesse incroyable que les choses iront mieux bientôt. Nous sommes la promesse incroyable que les choses iront mieux bientôt. Pas parce qu'on est important, pas parce qu'on est puissant, mais parce que Dieu a dit qu'à cause des élus, il ne laissera pas l'humanité se détruire, mais qu'il va intervenir au dernier moment pour mettre un terme à la folie humaine, et là va commencer le règne du Christ sur la terre. Mais c'est à cause des élus, à cause de ceux qui font l'effort maintenant de lutter contre leurs faiblesses, contre les tendances du monde, pour appartenir à Dieu et développer son caractère. Alors comprenez-vous pourquoi je vous dis que nous sommes la promesse incroyable que les choses iront bientôt mieux pour l'humanité. On a ça comme responsabilité sur nos épaules. Dieu nous a appelés, il nous a donné ses lois, son pardon, et nous préparons la délivrance du monde. C'est aussi simple que ça. C'est gros comme déclaration, là. Ça a l'air prétentieux, mais c'est pas prétentieux. C'est conscient de la puissance de Dieu et de mon impuissance à moi et de votre impuissance. Ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous et en nous. Si on s'accroche à lui et on lui demande de faire sa volonté et de nous aider dans tout ce qu'on a à faire pour arriver au bout, pour soutenir l'œuvre, pour être des bons exemples, nous serons là. Dieu nous a appelés pas pour qu'on manque notre coup, il nous a appelés pour qu'on réussisse. On a notre part à faire, bien sûr. Et si on ne fait pas notre part, on ne sera pas là. Ça, c'est aussi simple que ça. Alors, la fête des tabernacles, dans ce sens-là, c'est un exercice. Un exercice de préparation au royaume, aux responsabilités qu'on aura dans le monde de demain. Allez à 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et ça on sait que c'est proche, et on va le célébrer à la fête des trompettes qui approche. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et oh oui, que la trompette de Dieu va résonner sur la terre. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Donc, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui lui ont appartenu au cours de l'histoire, les quelques-uns de l'Ancien Testament, dont je vous ai déjà parlé, Moïse, Abraham, Noé, le roi David, vont être amenés à la vie au moment de la septième trompette, quand le Christ va descendre sur la terre. Et il dit après ça, ensuite, nous les vivants, ceux d'entre nous qui auront été persévérants et qui seront encore vivants, il y en aura parmi nous sûrement, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça explique pas ici, mais dans 1 Corinthiens 15, on voit que ceux qui seront encore vivants seront transformés en un instant. Alors, ceux qui ont peur des hauteurs, ne soyez pas inquiets. Vous n'aurez pas mal au cœur parce que vous allez monter dans les nuées. Vous ne monterez pas dans les nuées en tant qu'être humain physique. Vous allez être d'abord transformé et ensuite, vous allez monter, mais sans avoir peur. Sans gravole dans vos poches. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comprenez-vous pourquoi les fêtes de Dieu nous encouragent et nous consolent? Ces paroles-là du retour de Christ, de ce qu'on aura à faire, de ce qu'on va apprendre à la fête, ce sont de grandes consolations pour qu'on reste attaché au but que Dieu nous a fixé. On a écouté hier soir un sermon de M. Ames, très intéressant, et M. Ames, à un moment donné, a dit une petite phrase qui m'a accroché. Il dit, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. C'est vrai. Et ça a l'air tout simple. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc, il faut que vous vouliez des choses claires, précises, et que vous y restiez attaché. Autrement dit, ça veut dire que c'est sérieux. Faut pas y aller à demi. Ceux qui y vont à demi ne seront pas là. Il y aura pas de demi-enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Ça va être des enfants complets. Et Dieu veut qu'on travaille au maximum, même si on n'est pas parfait, mais qu'on mette tous les efforts qu'il faut pour arriver au but. Alors, il dit, consolez-vous par ces choses-là. Et en allant à la fête, avec l'attitude dont je vous parle, on sera consolé. On a besoin. Il y a plusieurs d'entre vous, et c'est la même chose pour nos frères à travers le monde, ou à la maison, il y a beaucoup d'épreuves actuellement dans l'Église. Beaucoup de maladies, beaucoup de persécutions, des pertes, des moments difficiles, et ainsi de suite. Consolez-vous par ces choses-là, parce qu'il s'en vient, parce qu'il y a un Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé pour vous amener au but et vous donner de réussir. Il va nous donner les forces dont on a besoin et l'encouragement dont on a besoin en cours de route, comme lorsqu'il nous donne ses fêtes et qu'on les célèbre selon sa volonté, comme on est fortifié. Vous savez, le Christ va revenir d'abord pour des gens précis. Quand le Christ va revenir, là, il ne reviendra pas pour l'ensemble de l'humanité d'abord. Il va revenir pour les enfants de Dieu. Il va revenir pour ses petits frères et ses petites sœurs. Ça commence là. Après, il faudra s'occuper de l'humanité. Mais quand il va revenir, il revient pour les enfants de Dieu. Et il revient d'abord pour son épouse. Il vient rejoindre l'Église. Et il va avoir le mariage de l'agneau à son retour. C'est formidable. Alors, voyez-vous, si on met ça dans cette perspective-là, on voit à quel point Dieu a à cœur de vous aimer, de vous amener à terme, parce qu'il travaille de façon tellement affectueuse, précise, puissante avec chacun de nous. Juste un peu plus loin, dans le paragraphe suivant, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 5. « Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Donc, personne ne peut savoir exactement le moment du retour de Christ. On sait. Et ceux qui ont risqué des dates dans le passé se sont toujours trompés. C'est simple, parce que Dieu a dit, vous ne saurez pas. Il y a juste le Père qui le sait. Et quand il va déclencher le départ pour le retour de Christ, c'est lui qui a l'initiative. Moi, je ne peux pas vous le dire. Personne ne peut vous le dire. Sauf qu'on voit les signes. Le Christ a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, hein, sachez que je suis proche, à la porte. Alors, il dit ici, Paul dit, pour ce qui est des temps du retour du Christ et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il y a des choses qui vont se produire là avec une énorme soudaineté. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Écoutez, il n'y a personne ici qui ne devrait être dans les ténèbres. Dieu vous a appelé. Vous avez sa parole, vous avez ses fêtes. Vous avez ses serviteurs qui sont là pour vous aider. Et Dieu vous promet toute l'aide pour être capable de changer, d'arriver. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous pourrez lire après les choses qu'on doit éviter. L'ivrognerie et ces choses-là dont il mentionne ici, parce qu'il dit, vous ne serez pas là. Alors, on est des enfants de lumière, il faut vivre comme des enfants de lumière. Et vous savez une chose? La vérité appelle la vérité. Dans le sens que plus on vit selon les commandements de Dieu, selon la vérité de Dieu, plus on comprend la vérité de Dieu, et plus on est capable d'aller plus loin. Alors, c'est pour ça que je résume ça, dans cette toute petite phrase, la vérité révèle la vérité. C'est comme un circuit fermé là qui nous aide à aller plus loin et à devenir plus fort dans la vérité de Dieu. La révélation de Dieu, ce qu'il nous montre, c'est basé sur la lumière. Et nous, après ça, on doit devenir la vérité de Dieu. On doit devenir lumière. Et nous devenons dans ce sens-là, par notre façon de vivre, la révélation des fils de Dieu. Nous devenons la révélation des fils de Dieu. Nous devenons des enfants de lumière, des enfants de la lumière de Dieu. Et vous savez, ça doit être visible à la fête des tabernacles. Ça doit être visible tout au long de notre vie, là. Mais à la fête des tabernacles, faut pas qu'il y ait un relâche de ce côté-là. Au contraire, faut qu'on le mette en pratique dans toutes nos activités, d'être des ambassadeurs de Christ, des représentants fidèles de Dieu, comme j'ai mentionné tantôt, d'être disciplinés. Discipliné, ça veut dire être des disciples de. Croire quelque chose et le mettre en pratique. Dieu nous convoque aux cinq convocations durant toute la fête, être là à l'heure, être là assez en forme pour bien suivre ce qui est dit, noter les choses, revérifier nos notes à la chambre d'hôtel comme étude personnelle et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment de refléter le Christ, être des ambassadeurs de Dieu. Mais c'est pas tout, il faut aller plus loin. Il faut avoir du respect puis de l'appréciation pour les gens qui nous servent. Écoutez, vous allez être comme des pachas, là. On va être comme des rois, c'est vrai. Et Dieu nous fait une petite pratique de royauté d'une certaine façon. Parce que vous n'allez pas à faire les repas, vous n'allez pas à faire le ménage, vous allez goûter la vie de château, des gens riches et célèbres, même s'il y a à peu près personne d'entre nous qui est riche. Il y a certains dans l'Église, dans le monde, qui sont peut-être plus en moyen que d'autres, quelques-uns, mais c'est rare, pas ici, que je connais. Mais on va vivre une vie spéciale, parce qu'on est dans un autre monde, les gens nous servent, on peut demander des choses, les gens veulent nous aider, ils sont contents de nous avoir, bien sûr, financièrement, ça c'est important pour eux, mais il faut respecter ces gens-là et les apprécier. Parce que, voyez-vous, on n'est pas au-dessus d'eux, là. Faut pas oublier qu'on est en train d'apprendre à être leur serviteur. Le Christ a dit, vous n'êtes pas plus grand que moi. Moi, je vous ai montré à être le serviteur de tous. On doit considérer les autres, comme la Bible dit, comme plus importants que soi-même. Est-ce que c'est pas le cas? Alors, est-ce que ça ne doit pas s'appliquer à la fête du grand Dieu qu'on sert et qui représente le monde à venir, où nous aurons à aider les nations, à les enseigner? Alors, faut en vivre maintenant, à ce moment-là. Respecter les gens autour, leur manifester de l'appréciation. Les gens dans les hôtels, dans les restaurants, aux stations-service, même s'ils ne savent pas qui nous sommes vraiment, et même si on n'essaie pas de les convertir, je sais, par les expériences passées, que quand les membres d'Église font ça, les gens qui le voient disent, on ne voit pas ça souvent du monde comme vous autres. Pourquoi? Je ne leur dis pas, mais c'est une autre culture que celle que vous voyez habituellement autour. Et ils l'apprécient énormément, même s'ils ne le comprennent pas. Et vous savez une chose? J'ai pensé à ça ce matin en finissant de préparer mon sermon. En étant gentil, poli, en marquant l'appréciation envers les gens qui nous servent, vous préparez leur appel. Ah, oui, pas tout de suite, ils ne sont pas appelés tout de suite. Mais quand Dieu va les appeler plus tard, ils vont se rappeler qu'il y avait des gens bizarrement gentils qui les ont visités, qui ont vécu une fête bizarre aussi, que personne ne célèbre sur la face de la terre, sauf quelques individus. Mais ils vont faire le lien à ce moment-là. Donc, en agissant ici, vous préparez, pour ainsi dire, leur appel. Et c'est le moment à la fête aussi de pratiquer ce qu'on appelle la patience. Hein? La patience. Parce que tout n'ira pas comme sur des roulettes. Et Dieu va le permettre. Ça arrive ces choses-là. Et je vois nos techniciens qui rient en arrière. Dieu est en train de leur donner une bonne pratique de ce temps-là avec les caméras, puis avec le système technique où il y a besoin de tellement d'ajustements. Tout n'ira pas comme sur des roulettes. Mais là, c'est l'occasion qu'on a d'apprendre. Dieu permet que ça arrive. Dieu pourrait faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème, que ce soit comme sur un nuage tout le temps. Mais on est à l'école pour en train d'apprendre quelque chose. Alors, il faut être patient, attendre, faire notre possible, demander à Dieu tout le temps, quand il arrive quelque chose qui a besoin d'être corrigé, ne pas critiquer. Ne pas critiquer. Pour certains, ça va être une montagne. Ne pas critiquer, pas l'ensemble, mais je sais que pour certains, ça va être une montagne. Ça, c'est une autre chose qu'il faut apprendre. Comme il faut aller à la fête aussi, avec l'attitude d'humilité. J'ai aimé ça, M. Arsenault, dans son étude biblique cette semaine, a justement mentionné cet aspect-là. C'est là que j'ai pris ça. Il dit, à la fête des tabernacles, il faut être humble. On est les serviteurs des autres. Nous ne sommes pas plus importants parce que nous vivons à l'hôtel pendant 9 ou 10 jours. Nous apprenons l'humilité. Nous sommes les serviteurs de Dieu et les serviteurs des autres. On reste ça. Et si on fait ça durant le temps de la fête, on aura la satisfaction d'avoir bien représenté notre Créateur et notre grand frère. Maintenant, oui, faut être des ambassadeurs de Christ envers les gens autour, c'est vrai. mais il faut l'être aussi pour nos frères et nos sœurs dans l'Église. On n'est pas une île à la fête. On est avec les autres. Alors, portez attention aux autres. Considérez les autres avec respect, avec patience aussi parfois, parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même façon de faire. Alors, ça demande des petits ajustements. Comme dans une famille, c'est la famille de Dieu. Fraterniser avec le plus de monde possible. Ça va être intéressant de revoir ceux qu'on a connus. Formidable. Mais vous savez quoi? Ça va être encore plus intéressant et, je dirais, plus responsable d'aller vers des gens qu'on n'a pas connus. Il y a des gens qui sont allés à la fête pour la première fois. Ils seront peut-être gênés, peut-être dans leur coin, ne savent pas trop comment ça fonctionne. C'est notre rôle à nous, les plus anciens, et même les moins anciens, ceux qui sont entrés dernièrement, mais qui comprennent le processus, d'aller parler à ces gens-là, d'apprendre à les connaître. Certaines personnes vont dire, oui, mais moi, je suis gêné, je ne sais pas quoi dire. Vous savez quoi? Si vous ne savez pas quoi dire, là, dites rien. Je vais vous dire, je vais vous donner un truc qui marche toujours. Vous allez vers des nouvelles personnes, mettez-vous pas dans la tête qu'il faut que vous arriviez avec toute une liste de choses intéressantes à leur dire, parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant, mais posez simplement des questions. Déjà, la conversation va être engagée. Demandez d'où la personne vient. Comment elle a connu l'Église? Mais là, sautez pas à l'autre question tout de suite, de même passer les 10 questions vite, parce que je ne sais plus quoi dire. Quand la personne va expliquer ces choses-là, posez des sous-questions. Est-ce que vous êtes seul dans votre famille? Comment ça s'est produit quand vous avez été appelé? Êtes-vous venu tout de suite? Est-ce que vous avez pris du temps à examiner les brochures? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que ça a été difficile, par exemple, pour le sabbat, pour vous, d'intégrer ça à votre vie? Voyez-vous, il y a une série de questions qu'on peut poser puis ajouter. La conversation est lancée. Et là, vous pouvez en avoir pour un bon bout de temps. Et la personne va apprécier. Et vous allez avoir le bonheur de connaître un frère ou une sœur nouvelle. C'est le début de la relation éternelle. C'est ça. C'est le tout début. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les nouvelles personnes, vers les nouveaux, vers ceux qui sont seuls. Si vous arrivez face à face avec quelqu'un qui parle une autre langue, c'est très facile. Souriez. Souriez, puis... No Spanish ou... Souriez, puis bonne fête. On passe à autre chose. Mais la personne a senti une chaleur. C'est ça, les ambassadeurs de Dieu. Voyez-vous? Il ne faut pas se sentir malheureux parce qu'on n'est pas capable de parler leur langue et puis aller se cacher. Non, non. Contactez-les, puis un sourire, puis une poignée de main, puis bonne fête, puis on va pas plus loin. Invitez d'autres à l'Église. Je sais que la plupart d'entre vous, vous le faites. Certains ne l'ont peut-être jamais fait, mais c'est le temps de le faire. Même si vous n'avez pas des grands moyens, vous pouvez inviter, simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grands repas et ces choses-là. Ça peut être tout simple. Vous pouvez inviter des personnes qui sont seules. Se laisser inviter aussi par d'autres, dans la mesure du possible. Il y en a qui ont gros des responsabilités, qui ne peuvent pas aller partout. Moi, j'aimerais ça être capable d'aller manger avec plusieurs, mais en tant qu'ordonnateur, vous comprenez que c'est impossible. Mais des fois, je me reprends autrement en dehors des fêtes, mais il faut se laisser inviter. Et encore là, j'ajoute quelque chose que M. Goss a mentionné dans un article qu'il a publié dans la petite revue canadienne dernièrement que j'ai trouvé formidable. Mon épouse a traduit cet article-là. M. Goss explique que, supposons que vous êtes invité par quelqu'un de l'Église pour aller faire une sortie ou un repas. Vous êtes content, vous dites oui, on va y aller. Tout à coup, il arrive quelqu'un d'autre que vous trouvez plus intéressant ou qui vous offre de quoi de... Qu'est-ce qu'on fait? M. Goss dit, vous êtes des enfants de Dieu, respectez votre parole. Vous avez pris le premier engagement, respectez votre premier engagement. Et j'aime ça qu'il ait expliqué ça, parce que des fois, on peut se retrouver dans des situations de même, puis humainement, ça peut être tentant de dire, ça serait le fun d'aller avec ce groupe-là, par exemple, qui vont faire des choses spéciales. Non, j'ai donné ma parole. Alors, il faut que je respecte ma parole. Participer aux activités que la fête organise dans la mesure du possible. Maintenant, j'ajoute ceci, j'en ai parlé à quelques-uns de l'Église individuellement. D'ici la fête, s'il vous plaît, n'ajoutez pas d'activités ou de travaux non nécessaires. Justement pour éviter de vous vider d'énergie, je ne parle pas des travaux courants, de ces choses-là, là, mais de pas mettre des choses qui peuvent être faites après la fête, que certains peuvent être tentés de tout mettre avant la fête, puis d'arriver à la fête fatigué, dans des moins bonnes dispositions pour comprendre les messages et pour célébrer vraiment la fête de Dieu. La fête des tabernacles, en anglais, il dirait que c'est un wake-up call. La fête des tabernacles, c'est un appel à se réveiller. C'est un point central du plan de Dieu et qui nous implique dans notre futur rôle et qui nous donne de réaliser ce qu'on a à faire pour être préparé, pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent aussi. Ça fait partie de ça. Alors, c'est pour ça que la fête des tabernacles, ce n'est pas d'abord des sorties, ce n'est pas d'abord des steaks, ce n'est pas d'abord, s'il y en a, parfait, c'est formidable, mais ce n'est pas d'abord ça. Nous sommes ici au sabbat et on est aux fêtes pour devenir de plus en plus des enfants de lumière. Et c'est une fête hautement spirituelle. Et moi, je dis aux nouveaux qui sont ici et à ceux qui m'entendent à la maison ou qui vont m'entendre ailleurs dans le monde lorsque le sermon arrivera, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue aux nouveaux dans l'Église, à ceux qui découvrent les fêtes de Dieu. C'est formidable. Vous allez découvrir à la fête et aux fêtes de l'automne des choses fantastiques qui vont vous faire rêver, qui vont vous enthousiasmer. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle. J'en ai parlé ce matin avec mon épouse quand elle est descendue dans mon bureau. J'étais en train de préparer le sermon d'aujourd'hui. Ça a été notre cas, mon épouse et moi, quand on a célébré notre toute première fête des tabernacles. C'était à Québec, ici, dans le bas de la ville, en allant vers l'île d'Orléans, un motel qui a brûlé depuis ce temps-là, motel Hélène. Et je me rappelle, dans la salle de réunion, le propriétaire, c'était un chasseur. Et dans la salle de réunion, il y avait beaucoup de monde au mur. Parce qu'il y avait plein de têtes de chevreuil, d'orignaux, de boucs, on était entouré de la belle création de Dieu, mais tous des personnages paisibles, mais jolis. Alors ça, je me rappelle de notre première salle. C'était tout simple, mais il y avait toutes ces têtes empaillées qui étaient au mur. Nous, c'était notre première fête. Ça remonte à... ça fait 44 ans. C'était en 1975. Formidable. On était pauvres, très pauvres même. On avait une toute petite, puis quand je dis petite, elle n'était pas grande. Une toute petite chambre de motel. Et c'était pas un motel luxueux, là. Mais il y avait un lit. Il y avait une salle de bain. Et surtout, on avait nos bibles, puis on venait de découvrir la vérité. Alors, on était en feu. Et ça a été une fête extraordinaire. Et vous savez, on a pris un seul repas au restaurant dans toute la fête. Non, je corrige. On a pris, durant cette fête-là, un seul repas de restaurant. Parce que j'avais eu le moyen, ça c'était notre petite gâterie de la fête, d'aller à une cantine. J'avais acheté des frites et du poulet rôti. Puis là, on avait mangé ça dans notre chambre. Ça a été notre festin de notre première fête des tabernacles. Voyez-vous, on s'en rappelle encore. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, là on était vraiment dans la bonne optique. L'essentiel à la fête, c'était pas les repas abondants, c'était pas le vin, les sorties, non. C'était la parole de Dieu, ce qu'on découvrait, de l'apprécier, d'admirer ce que Dieu faisait, ce que Dieu nous offrait. On portait pas à terre. On est revenu gonflé à bloc. Ça a été une fête mémorable. Ce qui était important, c'est ce que nous entendions. C'est ce que nous découvrions. C'est ce que nous vivions avec les membres de l'Église aussi, que nous apprenions à connaître. Et on admirait tellement, de plus en plus, Dieu et son plan qu'on découvrait. Pourtant, on était seulement au tout début, et quand on regarde par après, on comprenait pas beaucoup, là. Mais ce qu'on comprenait, ça nous motivait pas à peu près. Puis on était heureux d'être là. Puis voyez-vous, ça fait 44 ans. Et ça continue. Et j'ai hâte de vivre la première, par exemple, fête des tabernacles, quand le Christ sera là. Parce qu'il y en aura une qui va venir, où le Christ sera vraiment là pour la fête des tabernacles. Et je me plais à dire ça quand c'est moi qui coordonne la fête et quand j'ouvre la fête et que je dis, ben voici la fête des tabernacles de telle année est maintenant ouverte. Et je me plais des fois à dire, un jour, ce sera le Christ lui-même qui va dire ça. Voici la fête des tabernacles de telle année est ouverte. L'année 1 du monde de demain. Formidable. Ça, c'est devant nous, là. Ça fait partie des belles choses qui nous font rêver. Il y a tant à découvrir. Il y a tant à comprendre encore dans le plan de Dieu. Il y a tant à approfondir. On va aller voir un passage qui est enthousiasmant dans ce sens-là. Allons dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe. Un chapitre que j'aime beaucoup. Il parle du plan de Dieu de façon tellement attachante. Regardez le verset 11. Et ça va se passer à la fête des tabernacles comme bénédiction pour vous. Si vous et moi, nous approchons la fête de la façon dont je vous dis, pour aller là, pour apprendre, de mettre Dieu en premier, en faire une fête spirituelle, aller chercher l'essentiel de tous les messages, les reviser, les mettre en pratique. Regardez, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. » Et lorsque les ministres préparent les sermons pour la fête des tabernacles, on demande à Dieu de nous inspirer pour donner aux membres ce dont ils ont besoin pour là où on est rendu dans le temps et pour ce que chacun a besoin. Nous, on ne sait pas, mais c'est étonnant de voir comment Dieu travaille. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent nous voir après un message et ils nous disent, « Monsieur Brochu, vous avez parlé de telle chose dans le message, c'est ça que j'avais besoin. » Parfois, on ne réalise pas vraiment tout ce que ça voulait dire, mais pour cette personne-là, ça avait une valeur très particulière et ça a fait la différence de sa fête. Ça m'est arrivé encore l'an passé. Pourquoi? Parce que Dieu inspire ses serviteurs de donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comprenez-vous la puissance de la parole de Dieu qu'on étudie chaque jour dans sa Bible? Et comprenez-vous la puissance de la parole que Dieu va donner à la fête et qu'il donne lors de ses fêtes à ses serviteurs pour ses enfants afin qu'ils soient capables de faire sa volonté, qu'ils soient encouragés et qu'ils aillent de l'avant pour arriver au but? La parole de Dieu, elle est puissante. Et c'est pour ça qu'à la fête, il faut être là et en tirer le maximum. Maintenant, on va regarder le contexte de ce passage-là. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole que nous recevons dans les messages donnés au sabbat et dans les fêtes, cette parole-là accomplit des choses dans le cœur de ceux qui les entendent et dans le cœur de ceux qui sont là pour les entendre et pour comprendre davantage. C'est la puissance de Dieu, ça. C'est pas quelque chose qu'on voit dans la salle. Mais c'est quelque chose qu'on sent en nous et qu'on vit en nous. Reportons-nous au verset 9. Là ici, Dieu établit son autorité et sa majesté suprême. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oh là là, on est loin de lui là. Il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. On n'est rien à côté de lui. C'est vers lui qu'on doit se tourner et c'est de lui qu'on doit attendre la force. Et mes pensées, au-dessus de vos pensées. C'est pour ça que ce que nous on pense, ce que nous on croit, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est ce que je dis dans les conférences bibliques et parfois même dans les émissions de télévision. Je leur dis, ce que moi je pense là, ça n'a aucune importance. Des fois les gens sont surpris parce qu'habituellement les gens veulent convaincre les autres de dire ce que je pense c'est important. Non, ce que Dieu dit, ça c'est important. Et moi, ma responsabilité, c'est de dire ce que Dieu dit, de ne pas changer ça. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Et ça, c'est un si beau processus. La pluie qui descend, qui arrose le sol et on voit les plantes changer tout de suite. Parfois, quand ça a été un petit peu sec et qu'il vient une bonne pluie qui dure longtemps, une pluie lente qui pénètre dans le sol, on voit le lendemain les fleurs qui ont déjà une meilleure allure et tout ça. On voit le processus, là. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il y a tout le processus qui va jusqu'au bout parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Tout nous vient de Dieu. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi des fêtes. Souviens-toi que je suis ton créateur, que de celui qui te donne toutes choses. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Fête des tabernacles, le sabbat. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et regardez la projection qu'il fait ensuite. Moi, j'ai mis une petite ligne bleue à côté des deux autres versets parce que ça décrit le monde de demain, ce que nous allons célébrer à la fête des tabernacles. Oui, Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est symbolique, mais c'est pour montrer que la végétation, la création sera dans un état de beauté nouvelle. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Dieu va établir ça pour tout le temps qui reste. C'est formidable. Ça fait rêver. Mais c'est pour ça qu'on va à la fête, pour apprendre à rêver. Et je suis en train de commencer à préparer un sermon qui va, j'espère, nous faire rêver aussi à partir des messages de la fête. Dieu veut qu'on rêve, et que ce rêve-là soit la chose la plus importante de notre vie. C'est notre but. Allez dans Apocalypse 1, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. La deuxième partie du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous savez de qui il est question, hein? C'est le Christ qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. On a vu tantôt que faut se rappeler au sabbat, puis au jour de fête, que c'est lui qui nous a délivrés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et de la mort de nos péchés, de la mort éternelle, par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Et le verset 6, il nous dit, tu as fait d'eux un royaume. Et regardez, le verbe ici, même dans le livre original, est au passé. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils vont régner sur la terre. Pourquoi c'est au passé? C'est Dieu qui parle. Pour lui, là, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est comme si c'était fait. Tu as fait d'eux un royaume. Ça va arriver. C'est pas peut-être qu'ils vont faire partie du royaume. Peut-être qu'il y aura un royaume sur la terre. Non, non. Tu as fait d'eux. Ceux qui auront été fidèles, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Faut faire notre part. Pour vivre une soirée une fête des tabernacles, pardon, mémorable et agréable à Dieu. Les gens autour de vous puis autour de moi ne comprennent pas ce qu'on fait. Ne comprennent pas même pourquoi on part une semaine comme ça pour aller vivre dans des hôtels. Souvent, la plupart d'entre nous, on fait attention à notre budget durant l'année parce que, bon, la vie est difficile pour tout le monde. Puis là, ils partent puis ils s'en vont à l'hôtel pendant 10 jours. Il y a quoi qui va pas? Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et on n'a pas à leur reprocher non plus. Mais vous, vous comprenez. Et vous comprenez avec ce qui est écrit dans la Bible, pas avec ce que moi je vous dis, mais avec ce qui est écrit dans la Bible, que vous allez devenir des rois, que vous allez devenir des dirigeants, qui allaient être changés en un instant et qui allaient avoir la responsabilité sous le Christ d'aider les gens qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale, de les guérir, les encourager, les nourrir, de les aider à rebâtir des villes à échelle humaine où les gens vont pouvoir vivre. Votre destinée, c'est ça, de régner sur l'univers sous le Christ. Et ça dépasse toutes les limites actuelles. Et ça dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Il faut l'avoir, la perspective de notre appel. C'est ça, la perspective de notre appel. Si on arrive à la fête avec ça, on va être prêt à lutter pour se débarrasser de nos faiblesses et pour vivre la fête de bonne façon. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Il est possible que je reparle de ce verset-là au moment de la fête, 1 Corinthiens, chapitre 6, parce que ça dit beaucoup quand on parle du rêve qui est le nôtre concernant les responsabilités que Dieu va nous donner si nous sommes fidèles jusqu'au bout. Regardez la perspective de ce qui nous attend. Ça va loin. Pour des faibles humains que nous sommes, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse l'imagination. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Bon, là j'arrête. Les saints, ce sont les appelés qui vont avoir été fidèles et qui vont être sous le Christ pour administrer le monde. Juger le monde, ça veut dire l'administrer, le diriger, enseigner les gens. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Et regardez le verset 3. C'est là-dessus que je veux attirer votre attention en terminant. Verset 3. ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Wow! Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Là, il y a certaines personnes, quand ils regardent ça, ils nous posent la question. Ils disent, écoutez, les anges qui vont être là, est-ce que c'est pas les anges fidèles à Dieu? Donc, ils n'ont pas besoin d'être jugés ou d'être condamnés ou d'être examinés. C'est vrai que c'est les anges qui seront restés fidèles à Dieu, mais nous allons les juger, non pas pour les examiner, pour voir si c'est des bons anges ou des mauvais anges, ou s'ils méritent une punition ou non. Ils se sont qualifiés. Mais nous allons les juger dans le sens de les administrer, de les diriger, parce qu'ils seront nos serviteurs. Vous savez, il s'est écrit, c'est dans Hébreu, je pense, que Dieu a fait l'homme pour un peu de temps au-dessous des anges. Pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais quand nous deviendrons membres de la famille royale qui va administrer le monde, la toute petite famille née de nouveau, à ce moment-là, nous allons être un cran supérieur aux anges. Et les anges, à ce moment-là, les flammes de feu de Dieu, seront nos employés, pour ainsi dire, nos serviteurs. Et nous allons les diriger pour rebâtir le monde, pour guider les gens, pour les protéger, et ainsi de suite. Ça, là, si vous êtes comme moi, on a de la misère à imaginer qu'on puisse avoir des anges comme employés ou comme personnes qu'on va diriger. Moi, j'ai déjà eu des employés dans mes bureaux, tout ça, c'est pas pareil, des êtres humains. Mais là, des anges qui sont tellement puissants, qui sont tellement grands, pour le moment, ils sont tellement au-dessus de nous en termes de puissance et en termes de tout ce que vous voulez. Mais dans ce temps-là, ils seront sous notre autorité et on va travailler en collaboration avec eux. Alors, comprenez-vous pourquoi il faut, en allant vers la fête, travailler à changer, travailler à préparer une fête tout à fait spirituelle pour que nous soyons prêts à régner avec le Christ? Parce que c'est tout proche. Et il ne faut pas, comme la Bible dit, négliger un si grand salut. Il faut y mettre tout notre cœur. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Préparez-vous pour la fête la plus extraordinaire jamais vécue. Et il faut que ce soit comme ça pour qu'on franchisse l'étape là où nous sommes rendus dans le temps.